D'habitude, quand on parle de santé ou de sécurité, on s'attend à un truc hyper précis, tu sais, c'est presque binaire.
Ouais, c'est clair, comme une radio avec une fracture bien visible. Le médecin pointe le doigt et dit « voilà le problème ».
Exactement. Sauf que, quand on plonge dans le monde de l'aide à domicile et du vieillissement, on navigue dans des eaux beaucoup plus troubles. On est dans des chambres à coucher, avec des lits trop mous, des espaces pas du tout conçus pour la médecine.
Et c'est là que ça devient compliqué pour les professionnels sur le terrain.
Totalement. Il y a une statistique frappante qu'on a trouvée dans nos sources d'aujourd'hui. Près de 30% des seniors chutent chaque année. 30%!
C'est un chiffre terrifiant, ouais.
Le truc le plus fou, c'est que ces chutes, elles n'arrivent pas pendant un effort intense. Ça se passe très souvent lors de mouvements super basiques, genre juste entrer ou sortir de son lit.
Bah en fait, ce moment précis, c'est un vrai point de bascule pour le corps. Passer de la position allongée à debout, ça demande une adaptation folle de la tension artérielle, de l'équilibre. Pour une personne fragilisée, c'est souvent là que ça lâche.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une plongée hyper spécifique sur ce sujet. On a épluché pas mal de documents spécialisés, des articles de Petit-Fils, WeAdapt, LogiAdapt.
Ouais, on a aussi regardé les données du groupe soins à domicile, de Tous Ergo, et même une vidéo de formation technique.
Tout à fait. L'idée, notre mission aujourd'hui, c'est de proposer un condensé ultra ciblé, un outil de formation rapide, vraiment pensé pour les auxiliaires de vie. On veut comprendre pourquoi un équipement aussi simple en apparence qu'une barre de lit peut littéralement sauver des carrières et des vies. Alors décortiquons tout cela.
Ben, pour commencer, je crois qu'il faut vraiment casser une image tenace. Quand on parle d'une aide fixée au lit, la plupart des gens imaginent tout de suite les grosses ridelles d'hôpital.
Ah ouais, la fameuse cage métallique qu'on remonte pour bloquer le patient. J'avoue que je suis coupable, j'imaginais exactement ça au début.
T'es loin d'être la seule. Et c'est justement l'erreur fondamentale que pointent Tous Ergo et le groupe soins à domicile. Faut pas confondre une barrière de lit avec une barre de lit. C'est pas du tout la même chose.
Mais du coup, si le but c'est d'éviter les chutes, pourquoi on bloque pas juste le bord du matelas?
Parce que bloquer le passage, c'est de la sécurité passive. C'est fait pour quelqu'un qui n'a pas conscience de ses mouvements, tu vois, genre des spasmes sévères ou de la désorientation la nuit. La personne subit l'équipement.
D'accord, je vois.
Alors qu'une barre de lit, c'est l'inverse. C'est de la sécurité active. C'est un point d'appui fixe pour que la personne s'en saisisse volontairement pour pivoter et se lever.
Ah, la nuance est hyper importante. En fait, c'est un peu comme la différence entre la main courante d'un escalier qui t'aide à avancer et une barrière pour bébé en haut de l'escalier qui t'empêche juste de tomber.
C'est exactement ça. Et sur le terrain, se tromper d'équipement peut être dangereux. Imagine quelqu'un qui a des vertiges en se levant. Il lui faut un ancrage solide, donc une barre. Une barrière escamotable n'est pas faite pour supporter le poids de quelqu'un qui se hisse, elle va céder.
Ah ouais, la catastrophe.
À l'inverse, si tu mets une simple barre de préhension pour une personne désorientée, bah elle passera à côté, elle tombera.
D'ailleurs, à ce propos, la source de Tous Ergo parle d'un truc super intéressant pour les gens qui essayent d'enjamber les barrières. Il suggère d'ajouter un matelas de sol au pied du lit. Ça fait un peu aveu d'échec, non?
C'est pas un échec, c'est juste être réaliste face à des maladies comme Alzheimer. Une personne très désorientée va voir la barrière comme un obstacle à escalader.
Ce qui augmente la hauteur de la chute au final.
Exactement. Le matelas de sol, c'est de la réduction des risques. Tu peux pas empêcher la chute, mais tu amortis le choc.
Ok, on voit bien l'impact pour le bénéficiaire, mais il y a un autre truc crucial dans nos documents, surtout chez Petit-Fils, c'est l'impact sur l'auxiliaire de vie. Et là, j'avais un petit doute.
Vas-y, dis-moi.
Si j'ajoute une grosse structure métallique sur le bord du lit, est-ce que ça va pas juste gêner l'intervenant pour faire son travail?
C'est une question super légitime. On pourrait croire que ça encombre, mais c'est tout l'inverse. Les documents parlent de partenariat ergonomique.
Partenariat ergonomique, carrément?
Ouais, parce que lever un adulte, c'est un effort colossal. Sans aide, l'auxiliaire compense le poids mort du bénéficiaire avec son propre dos.
Et ça, c'est le meilleur moyen de se bousiller les lombaires. On sait que c'est la cause numéro un des arrêts maladie dans la profession.
Exactement. Mais avec une barre de lit, le bénéficiaire peut utiliser la force qui lui reste dans les bras pour se tracter un peu. Même si c'est juste 15 ou 20% de son poids, bah c'est toujours ça de moins sur le dos de l'auxiliaire.
C'est clair. Et j'ai vu que si on couple ça avec un relève-buste électrique, l'effort est presque nul, non?
Totalement. Le lit redresse le dos, la barre sert de pivot, et l'auxiliaire ne fait plus que guider le mouvement en sécurité.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle plus d'un simple bout de métal pour la personne âgée, c'est littéralement un bouclier physique pour l'auxiliaire de vie. Mais du coup, on s'assure comment que c'est bien utilisé? Parce que ça s'invente pas.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'utilisation d'une aide technique n'a absolument rien d'inné. La vidéo de formation insiste beaucoup là-dessus.
C'est-à-dire?
Il y a un risque de mal s'en servir. L'auxiliaire doit être formé pour analyser la situation chaque jour. Évaluer la force de la personne ce matin-là et se positionner correctement.
Ouais, c'est hyper fin comme analyse quotidienne. Et vu que chaque personne est différente, j'imagine que la barre standard toute droite, ça marche pas à tous les coups. Nos sources comme LogiAdapt montrent plein de modèles différents.
Bien sûr. Se lever, c'est une séquence de mouvements. Donc le marché a créé des formes spécifiques. Prends la barre en M, par exemple, le fameux M-Rail.
Le M-Rail, ouais. J'ai essayé de visualiser le truc. Pourquoi une forme de M, en fait ?
Parce que ça offre plusieurs niveaux de prise. Quand la personne est allongée, elle a besoin d'une prise basse pour amorcer le mouvement des épaules.
Ok.
Et une fois assise, elle a besoin d'une prise plus haute pour se propulser avec ses triceps. La forme en M permet à la main de grimper le long de la barre sans jamais lâcher prise. C'est de la biomécanique pure.
Ah ouais, super malin. Et c'est du solide, on parle d'acier ou d'aluminium. Mais ça soulève un autre problème, psychologique celui-là. Installer un gros truc médical froid dans sa chambre à coucher, ça doit coincer des fois, non ?
Ah bah c'est souvent le gros mur auquel on se heurte. L'équipement peut donner une sensation d'enfermement. Si la personne a l'impression d'être dans une cage ou dans une chambre d'hôpital, elle va la rejeter.
Et en plus, dans une petite chambre, ça prend de la place. Si le lit est coincé contre un mur, ça peut gêner le passage d'un déambulateur.
C'est pour ça qu'il y a des modèles qui essaient de se fondre dans le décor. Et au-delà de l'espace, il y a la compatibilité. Beaucoup de barres se glissent sous le matelas. Sauf que si t'as un sommier tapissier ou un lit super bas, bah la barre universelle, elle marche plus.
Faut vraiment que le professionnel analyse l'environnement. Et on va pas se mentir, il y a aussi le prix. Ça coûte combien un équipement comme ça ?
Ça va d'environ 30 euros pour un modèle basique à glisser sous le matelas, jusqu'à plus de 200 euros pour des structures télescopiques ou des M-Rail.
C'est quand même un budget pour certaines familles.
C'est là que l'auxiliaire de vie a un rôle de conseil énorme. Informer les familles que des aides comme MaPrimeAdapt ou certaines mutuelles existent, ça peut lever ce frein financier.
Ok, donc disons qu'on a le bon modèle, il est financé, la famille est d'accord, on passe à l'installation. Et là, en lisant la vidéo de formation, j'ai cru lire une recette de cuisine ultra stricte avec leurs histoires de centimètres.
Bah, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort, honnêtement. L'installation ne tolère aucune approximation.
On parle d'un truc glissé sous le matelas, pourtant. C'est si dangereux que ça ?
Pense aux forces physiques. T'as une personne de 70 kilos qui s'appuie dessus. Si c'est mal fixé, la barre fait levier, soulève le matelas et projette la personne par terre.
Ah oui, l'effet de levier, l'angoisse. Donc, il parle de la règle des 30, 15 et 40 cm. Commençons par les 30 cm. La barre doit être à au moins 30 cm de la tête du lit. Spontanément, j'aurais voulu la coller à l'oreiller pour que ce soit sous la main, moi.
Surtout pas ! C'est l'erreur la plus fatale. Ces 30 cm, c'est pour éviter la strangulation positionnelle.
Oh mon Dieu, carrément là.
Ouais. Si la barre est trop près et que la personne glisse pendant son sommeil, son cou ou son thorax peut se coincer entre la barre et la tête de lit. Avec 30 cm de vide, un corps entier peut passer sans se bloquer.
C'est glaçant, mais au moins c'est clair, on bricole pas. Ensuite, on a les 15 cm. La barre doit dépasser d'au moins 15 cm au-dessus du matelas. C'est lié à l'écrasement du matelas, je suppose.
C'est ça. À vide, tu te dis que 10 cm, ça suffit. Mais quand la personne s'assoit, le matelas s'affaisse, surtout s'il est en mousse.
Et du coup, la barre disparaît.
Voilà, la prise se retrouve au niveau des fesses, voire plus bas. Le patient peut se coincer la main, donc il faut 15 cm minimum après compression du matelas.
D'accord. Et enfin, les 40 cm de longueur minimale, c'est pour pouvoir glisser la main lors du mouvement, comme on disait pour le M-Rail.
Tout à fait. Mais attention, juste la glisser sous le matelas, ça suffit pas. La vidéo insiste sur un truc vital, la sangle ajustable.
Ah oui, la fameuse sangle. Elle sert à quoi exactement ?
C'est elle qui crée la contretension. Elle part de la barre, passe sous le sommier et s'attache de l'autre côté. C'est ça qui empêche le basculement et l'effet levier.
Mais du coup, l'auxiliaire de vie doit vérifier ça tout le temps.
C'est une routine obligatoire. Avant chaque transfert, faut inspecter visuellement et physiquement. Les lits bousent, on change les draps, la sangle peut se relâcher.
Donc on tire un bon coup dessus pour tester avant de lever la personne.
3 secondes de test, ça fait la différence entre un lever sécurisé et un drame.
Bon. Bah pour résumer tout ça, je suis vraiment convaincue que cette barre de lit, c'est pas juste un bout de ferraille. C'est un outil d'empowerment pour la personne âgée.
Ouais, ça lui redonne de l'autonomie.
Et c'est un bouclier indispensable pour l'auxiliaire de vie, à condition de respecter les règles, les fameux 30, 15, 40 cm, la sangle, et de bien faire la différence avec une barrière. Tout repose sur l'expertise du professionnel à domicile, au final.
Une vraie symbiose entre l'humain et le matériel.
Exactement. Et ça m'amène à une dernière pensée, un truc pour l'avenir. Si un simple tube en métal change autant la donne aujourd'hui, imagine quand on va y intégrer de la technologie.
Ah, tu penses aux capteurs intelligents ?
Ouais, imagine des capteurs biométriques dans la barre. Elle pourrait analyser la force de préhension au réveil ou détecter que la personne s'appuie dessus en pleine nuit et envoyer une alerte silencieuse sur le téléphone de l'auxiliaire de vie dans la pièce d'à côté.
Ce serait dingue. On passerait d'un support physique à de la vraie prévention prédictive.
Mais complètement. Est-ce que ça changerait pas radicalement la façon dont on gère les gardes de nuit? C'est une idée folle à garder en tête pour l'avenir du maintien à domicile. Parfois, le futur de la médecine se cache juste là, sous le matelas, attaché par une bonne sangle.